Bonjour à vous.
Ce syndrome du nid vide, il est fréquent? Il concerne tant les pères que les mères?
Alors, ce syndrome qui est, en fait, c'est assez simple à définir déjà, c'est quand les enfants veulent voler de leurs propres ailes, les parents se retrouvent le bec dans l'eau. Et les études, il n'y a pas beaucoup d'études par rapport à ça. On voit des chiffres qui vont de 30 à 60%. Ça toucherait de plus en plus les pères, mais plutôt moins que les mères. Et c'est assez intéressant de voir que ça touche aussi les enfants. Donc ça touche, il n'y a pas d'études scientifiques, hein, c'est plutôt un phénomène social qu'un trouble psychiatrique. Mais c'est assez largement répandu, oui.
Parce que le départ des enfants de la maison, ben, c'est une étape clé, on le sait, pour les jeunes, mais également pour les parents, finalement.
Oui, pour les jeunes, c'est bien sûr partir, l'aventure, la peur aussi de partir, hein, on en parlera plus tard, peut-être. C'est difficile de quitter un lieu sécure. Pour les parents, le vrai danger, c'est de voir le temps qui passe, de se retrouver en tête à tête. Et il se trouve que quand les enfants partent, ça correspond souvent à la période de ménopause, à la période de retraite. Parce que les enfants partant de plus en plus tard, ce syndrome est de plus en plus difficile à surmonter, puisqu'il arrive un moment difficile de la vie, qui est la crise du milieu de vie.
Alors justement, des enfants qui partent un peu plus tard, est-ce que les parents sont plus soucieux aujourd'hui qu'avant ?
Oui, parce qu'on a tendance à mettre beaucoup de pression sur les parents. Il y a beaucoup de performances parentales, on leur demande beaucoup. Les parents sont là aussi partout. D'ailleurs, on le voit, il y a différentes typologies de parents. Je résiste pas à filer ma métaphore des oiseaux. Hein. Il y a les mamans poules, les mamans aigles qui se sacrifient. Les mamans coucou aussi, qui n'ont qu'un enfant. Et le syndrome du nid vide est très très fort pour les parents qui ont un seul enfant. En Chine, par exemple, on a décrit des tentes de l'amour. C'est des parents qui prennent leur tente et qui vont sur le campus universitaire de leur enfant pour ne pas les quitter.
Ouh, ça fera plaisir à certains, pas à certains enfants. On pourrait faire ça. Tiens, ça peut être une menace. Est-ce que, docteur, il y a aussi l'angoisse, finalement, de voir, parce que vous l'avez dit, on attend des performances hein, parentales, de voir les résultats de l'éducation qu'on a donnée à nos enfants. Il va voler de ses propres ailes, ben c'est là qu'on va voir si on a fait le job ou pas.
Alors oui, c'est peut-être la difficulté à faire confiance dans les ressources de son enfant qui fait aussi que les parents ont besoin d'être plus présents. Mais il y a aussi, vraiment, c'est la réactivation de certaines peurs. Le syndrome du nid vide réactive la peur nous-mêmes d'être abandonnés, d'avoir quitté nos propres parents. Et en tant que psy, je ne peux pas m'empêcher de faire le lien entre le syndrome du nid vide et le baby blues. À la naissance, vous le savez, à 30 à 80% des mamans, au moment de la naissance de leur petit, font une petite dépression, une dépression légère, hein, qui dure 3 à 5 jours. Et le syndrome du nid vide est une forme de cette réactivation-là aussi.
Il faut se préparer à ce syndrome, à cette période, à ce départ. Il faut se préparer en tant que parent.
Oui, parce que c'est un grand changement. Alors, en psychiatrie, on classe ce trouble, ce phénomène social dans le grand groupe des troubles de l'adaptation, qui est une sorte de fourre-tout diagnostique. Alors, il faut l'anticiper, mais pas trop non plus. Parce que il faut l'anticiper parce que ça va être un tournant, il va falloir reconstruire son environnement. Alors, on parlera un petit peu de tout ce qu'il faut, de toutes les belles choses à faire. Mais surtout, il va falloir lâcher prise, c'est-à-dire sans culpabiliser l'enfant. Et sans le harceler non plus. Parce que beaucoup de parents, pour pallier le syndrome du nid vide, harcèlent leurs enfants en leur téléphonant toutes les 5 minutes. « Ah, mon chéri, t'as bien pensé à ça. Et puis, ton petit cache-nez, et puis ton petit goûter. »
Mais maman, j'ai 20 ans. Il y en a beaucoup qui ont des cache-nez encore.
En cette période, de plus en plus.
Ah, d'accord.
Mais du coup, ça veut dire qu'il faut faire les choses en douceur. Et puis, quand les ados qui sont encore à la maison pour quelques années, commencer gentiment à leur donner des responsabilités, un peu plus d'autonomie. Bah, je ne sais pas, par exemple, le rendez-vous chez le médecin, quelques démarches administratives, que gentiment et l'enfant et le jeune prennent des responsabilités et que les parents se rendent compte qu'il est capable d'avoir ces quelques responsabilités.
Oui, le syndrome du nid vide, c'est aussi une façon de se dire « Ah, avant, c'était chouette. » Je fais des jeux de mots, je me lâche hein, aujourd'hui.
Mais vous en êtes au combien de temps, là?
En tout cas, 5 ou 6.
Bon, en tout cas, pour ne pas y lisser des plumes, n'est-ce pas? Et pour ne pas se brûler les ailes en tant que parent, il faut y aller progressivement, il faut y aller par petites touches. ça touche, mais vraiment, je pense que le syndrome du nid vide, ça touche autant l'enfant que le parent, mais aussi le couple. C'est un problème de couple, le syndrome du nid vide. C'est pas que la maman ou que le papa. C'est le fait de se retrouver en tête à tête, alors qu'avant, on regardait dans la même direction pour accompagner l'enfant.
On peut avoir un sentiment de un peu de vide, un peu d'inutilité.
Oui, de vide, d'impuissance, d'inquiétude, de désarroi. Ça va jusqu'à la dépression. Il y a certains psychiatres, c'est aussi un jeu de mots, qui parlent de dépression post-départum.
Donc ça veut dire que il faut se préparer, et puis pour le couple, ben déjà se dire qu'il y a un moment donné, on va se retrouver en tête à tête, se regarder dans le blanc des yeux.
Oui, je crois qu'il y a trois regards à avoir. Le premier, c'est sur sa vie de couple. Il faut réapprendre à se séduire l'un et l'autre, à se retrouver en tête à tête. Le deuxième, et surtout pour les monoparents, c'est de faire des nouveaux défis, de retrouver cette liberté. Donc par exemple, faire du sport, prendre soin de soi. J'ai une patiente, par exemple, elle a pris un animal domestique, elle a mis un perroquet dans la chambre de sa fille. Ça continue à parler comme ça.
Et puis c'est un oiseau aussi, vous l'avez
oui,
placé.
Bah oui, voilà. Bravo. Et bien sûr, un nouveau rôle de parent. Un parent qui restera une boussole, trouver une nouvelle distance. Un parent refuge, mais pas un parent omniprésent qui est là pour pallier à tous les aléas de la vie et du quotidien.
Les enfants, il arrive qu'ils culpabilisent, eux, de laisser leurs parents tout seuls. On dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont devenir sans moi ?
Ouais, et du coup, ils partent pas. c'est souvent le problème. Alors, ou alors, ils viennent régulièrement, ils sont aux petits soins. C'est des enfants parentalisés, hein, souvent d'ailleurs. Hein.
Des enfants qui aujourd'hui peinent parfois à quitter le domicile familial, comme un peu le fameux film Tanguy, faut les forcer à partir, à prendre leur envol.
Oui, le syndrome Tanguy. Alors ça, c'est l'opposé du syndrome du nid vide. On pourrait dire que c'est le syndrome du nid trop plein, où les enfants ne partent plus, ils sont bien gentils d'ailleurs, et les parents saturent. C'est vraiment l'inverse. On décrit aussi un autre phénomène sur le plan sociologique, c'est la génération boomerang. Ces enfants qui reviennent régulièrement à leur point de départ, parce que bah voilà, il y a des raisons en soi, hein, le marché de l'emploi qui est difficile, la précarité financière, le coût des logements, cette dépendance par enfant, mais aussi le confort financier qu'offrent les parents et le report des mariages. Finalement, on voit des enfants comme ça qui ne quittent leurs parents que parce qu'ils vont habiter dans un autre logement qui est un mariage et leur propre famille sans vivre ce temps seul.
Alors on dit que les enfants partent, qu'ils vont loin, mais en fait non, souvent on reste dans la même ville, puis de toute façon il y a les réseaux sociaux, il y a les téléphones portables, on garde un contact permanent.
Hélas, j'ai envie de dire, parce que ce contact permanent fait que du coup on se sépare jamais, et donc du coup on ne sait pas ce que c'est que la solitude. Moi je vois régulièrement, la grande maladie de nos patients et de la société, c'est la solitude, on ne supporte plus ça. Et donc du coup, on a une maman comme ça qui texte son enfant et qui dit « Ah ben tiens-moi au courant tout de suite ». Et si elle rappelle pas, la fille ou le garçon ne rappelle pas dans les 5 minutes, c'est la fin du monde. Et ça, du coup, le fait de garder un lien renforce la peur et le contrôle des parents sur les enfants et inversement. Il faut faire un sevrage.
Ça veut dire que c'était plus sain avant, lorsqu'un enfant quittait, par exemple, même ne serait-ce que pour un voyage d'études de quelques mois, et puis que finalement, il y avait moins de possibilités de contact. Il y avait quelque chose de plus sain, à votre avis ?
Alors, non, je suis pas assez vieux pour dire « Ah, oh, c'était tellement bien autrefois ». Mais par contre, on n'avait pas le choix. Alors qu'aujourd'hui, c'est les enfants, et on le voit, c'est assez chouette, des enfants qui disent « Écoute, maman, tu es bien gentille, mais je t'appellerai une fois par semaine. » Et puis c'est comme ça. Et on le voit dans Tanguy, par exemple, les parents vont jusqu'à faire honte à leur fils pour pousser à la séparation. C'est dommage d'en arriver là. Donc essayons plutôt de trouver un juste milieu de communication. On communique pour se rassurer, mais pas trop, pour pas s'angoisser.
Alors, vous parliez de cette génération boomerang avec des adultes qui reviennent, bon, souvent pour des raisons économiques, vivre chez leurs parents. Du coup, là, il est nécessaire de trouver un fonctionnement différent avec ces enfants adultes. On ne va pas leur débarrasser la table et leur préparer le petit-déj, on va leur demander d'avoir comment dire, une posture d'adulte dans un foyer qui trouve un équilibre différent, on va dire.
Oui, oui, mais vous le dites très joliment, Joël. Vous le vivez presque, alors. À partir de quand considère-t-on ces enfants comme des adultes, d'égal à égal, au fond, avec des préoccupations qu'on a eues nous-mêmes ? Et c'est assez joli de voir cette transition qui est subtile dans la famille, où au fond, l'enfant n'est plus le petit, le petit moineau qu'on nourrit, mais plutôt le grand, j'ai pas d'autre nom d'oiseau là, le vieux hibou, le grand goéland qui peut déplier ses ailes et qui a un vol majestueux, un aigle qui vole au-dessus des sommets et qui pourra lui-même enseigner aux parents. Moi, je me souviens de mon père qui disait, mais au fond, tout l'enjeu de l'éducation, c'est d'accepter que les enfants fassent l'éducation de leurs parents.
Donc, ça veut dire qu'on doit apprendre de ses enfants et se laisser enseigner par ses enfants.
Oui, certainement.
Le syndrome de Nivitz, c'est le sujet qu'on abordait avec vous ce matin, docteur Rongade.
Puis, il ne faut pas oublier que les psychiatres aussi souffrent du syndrome du divan vide.
D'accord.
Avec, au départ de leur patient, après des longues... Non, on le vit tous, c'est l'enjeu de la séparation. Comment se séparer pour retrouver de la liberté et comment se séparer pour grandir plutôt que de rester ensemble et finalement rester tout petit ensemble.
On vous remercie beaucoup en tout cas pour ces éclairages et puis tous ces noms d'oiseaux que vous nous avez donné tout au long de l'émission.
Cette émission était volière. Une belle volière, voilà, c'est justement ce qui me vient à l'esprit.
Merci à vous, belle journée.